Vous écoutez
RMC.
Casa, Drouet, La Livre, Antenne. Casa, Drouet, La Livre, Antenne.
Bonsoir, bonjour. Une atmosphère un petit peu particulière ce soir, pour une émission encore plus particulière, une émission qui va vous amener dans les limbes, dans les tréfonds de l'âme humaine, là où le mystère s'épaissit. Nous allons parler d'une affaire encore irrésolue, peut-être encore plus mystérieuse que le Zodiac, ou Bonjour c'est Fred. Cette affaire, c'est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Et oui, nous vous l'avions promis, cette émission spéciale, elle arrive enfin. Bonsoir, bonjour, Jean-Christophe Drouet.
Bonsoir, bonjour Julien, bonsoir, bonjour à tous. Une émission,
vrai, bien
tu l'as dit, exceptionnelle autour de Xavier Dupont de Ligonnès. Une affaire qui a ressurgi il y a encore quelques jours.
Absolument.
Avec de nouvelles révélations. On en parlera justement dans cette émission. Nous aussi, peut-être que nous aurons des révélations aussi à vous donner. Vous composez le 32-16. Dans une première partie, nous allons parler avec un expert de cette histoire, de cette
Absolument.
Affaire. On va vous le présenter dans quelques instants.
Vous l'avez sûrement déjà vu. Ou entendu.
C'est possible, ces dernières semaines, il est pas mal dans les médias. Et puis dans une deuxième partie, ce sera à vous de nous appeler au 32-16. Vous aurez la parole pour vous, pour nous donner peut-être votre théorie. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? On sera là en tout cas pour en parler
avec vous. Ce que vous pensez de cette affaire.
Sur RMC.
Quel impact elle a sur vous?
Est-ce qu'elle vous fascine?
Voilà.
Ou pas?
Ou pas. Et à ce moment-là, vous n'appelez pas. Du coup, vous dites, allô? Bah non, ça ne m'intéresse pas. Merci Bernard. Vous pouvez raccrocher.
Bref, on est ensemble jusqu'à 1h30 et il y aura des kicksettis, ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Mais c'est une émission particulière parce qu'on se dit, peut-être qu'un jour, on devra changer d'émission et peut-être qu'un jour, on fera nous aussi une émission sur les faits divers.
Et pourquoi pas?
Et ben, attends.
Parce que, et puis, franchement, nous, on sera au moins sérieux par rapport aux autres, franchement.
Non,
les autres
fou.
Sont pas sérieux.
C'est
pas
fou.
Sérieux.
Ils vérifient pas leurs informations.
Ils vérifient pas leurs infos.
Alors que nous, on vérifie tout.
On vérifie tout.
À nous, des lames, hein, des épées. Hein.
On embrasse Julien Courbet. Donc...
on va accueillir peut-être nos invités.
Je crois pas si bien dire. Trois invités. Le premier invité, Axel Red. Bonsoir, bonjour Axel Red.
Bonsoir, merci beaucoup.
Alors elle est Red, mais il y a son ami Courbet. Bonsoir, bonjour Julien Courbet.
Bonjour Hélène.
Alors moi c'est Julien. Mais et Hélène, un invité qui lui est là. Il a, c'est Gilles Gallou. Bonsoir, bonjour.
Bonsoir, bonjour.
Alors vous êtes un peu plus intervenant dans cette affaire puisque vous avez commis un livre qui dévoile tout.
Exactement, Gilles Gallou est ex-enquêteur de la police judiciaire spécialisée en cybercriminalité. Vous aviez participé à la traque de Xavier Dupont de Ligonnès en 2011. Désormais à la retraite, vous avez décidé de continuer de mener l'enquête et vous avez sorti un livre, Un flic au cœur de l'enquête aux éditions Max Milo, une enquête qui vous a mené au Texas, aux États-Unis. On en parlera évidemment dans cette émission. Merci d'être avec nous. Ça vous fait quoi de faire une émission à minuit 3 maintenant?
Là, c'est chaud pour moi. Là, je dors depuis longtemps.
Sachant que moi, c'est l'heure où on tue. C'est-à-dire que normalement, là, les gens tuent, et puis vous, il y a une heure où vous enquêtez dessus.
Mais là, non, donc... là, effectivement, minuit 3, je pense que le 4 avril 2011, il s'est passé quelque chose de très grave.
Forcément.
Avec Schumann,
forcément.
Ouais.
c'est effectivement. Effectivement. Alors là, donc, vous avez relancé l'enquête, vous avez fait ça quand à un moment donné où c'était un peu plus calme, ou comment on arrive à persuader les gens qu'on n'est pas juste un fou qui cherche, entre guillemets, du pétrole sous un champ de sable?
Je ne me suis pas posé toutes ces questions-là. Hein. Moi, l'affaire, elle m'est un petit peu revenue dans les pattes par hasard. C'était plutôt le contraire, c'est ce que j'explique dans mon livre. Moi, je ne voulais plus du tout entendre parler, puisque vous avez dû lire dans mon livre que j'ai été condamné dans cette affaire pour violation du secret de l'enquête. Des documents de monde aussi se sont trouvés publiés dans la presse. Donc moi, ce n'était pas forcément un bon souvenir, l'affaire Ligonnès. Et puis, fortuitement, à l'occasion de la sortie d'un livre que j'ai lu, qui est un roman, moi, je suis pas trop fan de romans sur l'affaire, je suis plutôt sur les faits. Je me suis dit, bon sang, mais j'en ai marre de lire des choses comme ça, et j'ai envie d'écrire des choses factuelles. Donc, j'ai ressorti un vieux carton de mon grenier, et c'était reparti.
Et c'était reparti, et vous avez toujours envie de continuer cette enquête, ou ce livre était un one-shot?
Bon bah déjà, j'ai pas imaginé écrire un livre, si vous voulez savoir. Moi, au départ, je voulais juste essayer de trouver...
C'était prendre des notes pour l'enquête.
Même pas. C'est un collègue qui m'a expliqué ça une fois que le livre est sorti. Il appelle ça la charge mentale.
Ouais.
Ça arrive à beaucoup de policiers ou de gendarmes qui traitent des affaires criminelles, qui se retrouvent avec une affaire peut-être qui les dépasse un peu mentalement, ouais. Puisque moi j'étais un peu seul avec deux collègues à travailler là-dessus. Aujourd'hui ça n'arrive plus, puisque quand il y a des grosses affaires, on la divise sur plusieurs groupes pour justement que mes collègues ne se retrouvent pas comme moi, arriver à la retraite avec un petit vélo qui tourne dans la tête en disant
oui.
Mais est-ce que j'ai pas raté un truc?
Ouais.
Et c'est ça en fait, c'est ce petit vélo qui vous dit mais merde, il faut que j'y retourne parce que j'ai raté quelque chose.
Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est terrible ce qu'on appelle aujourd'hui parfois les cold cases, c'est-à-dire que quand un truc n'est pas, une affaire n'est pas résolue,
ouais.
C'est vrai qu'on se dit qu'il y a un goût d'inachevé, on se dit j'arrête mais c'est pas fini quoi, le jeu est pas terminé.
Exactement.
Comme pour la fameuse enquête du Zodiac, où les mecs, je pense qu'ils sont, tous suicidés à la fin, parce que ça rend fou. C'est vrai que ça doit rendre fou d'avoir l'impression de tourner.
Ouais, c'est-à-dire que si on avait été deux ou trois à faire mes investigations, je me dirais, moi, si j'ai raté, au moins le collègue d'à côté, il l'a pas raté.
Ouais, ouais.
Tandis que moi, personne n'a vérifié derrière moi. Du coup, en 2024, je dis merde. Je vais vérifier ce que j'ai fait déjà.
Avant d'aller au cœur du sujet, de nous parler aussi de cette piste aux États-Unis, avant de parler des différentes théories, je vais revenir sur quelques points clés. Mais juste avant, comment cette affaire vous arrive en 2011? Comment elle arrive sur votre bureau? Vous pouvez l'expliquer à tous les auditeurs qui nous écoutent.
Très rapidement, en fait, la police judiciaire, comme beaucoup de services de l'État, fonctionne avec un permanencier. Donc cette semaine-là, je suis de permanence et on est vendredi soir. Les meurtres ont déjà eu lieu. Le 21 avril, les corps ont été découverts. On n'est pas encore saisi, nous, à l'office, puisque c'est la PJ Nantes qui est saisie. Et eux, au bout d'une semaine, ils se rendent compte que Ligonnès, il a laissé beaucoup de traces numériques. Et ils ont suffisamment à faire avec leurs investigations. Donc ils font appel à l'Office central cybercrime où je suis pour investiguer les traces numériques de Xavier Dupont de Ligonnès.
Ok, mais dans ce cas-là, vous êtes tout seul à faire ce travail-là ou il y a aussi d'autres collègues avec vous?
Non, alors moi je suis le permanencier, donc c'est moi qui prends le dossier du week-end. Et puis en principe, à la PJ, celui qui prend le dossier, le lundi matin, il est réaffecté à un groupe. Voilà, et donc en fait, moi je me retrouve à passer tout le week-end à explorer ce fameux site Cité Catholique. Et donc c'est moi qui me fade ces fameux messages incompréhensibles. Et le lundi matin, mes supérieurs me disent écoute, tu te les écolles, tu y restes parce qu'on n'a pas envie d'y retourner. C'est vraiment ça. Hein.
Est-ce que tout de suite, on sent que ça va être une affaire très différente des autres? Est-ce que tout
oui, bien sûr. Moi, on est une semaine après, donc ouais. Déjà les camions satellites ont envahi Nantes, le 55 Schumann, la route est barrée, donc je sais très bien que ça va être une affaire hors norme.
On a trouvé les corps là, à ce moment-là.
Ouais.
Donc là, c'est vrai que
c'est parti. Là,
tant qu'on n'avait pas trouvé les corps, ça pouvait être un truc classique de disparition.
C'était une disparition inquiétante, donc voilà. Dont j'avais même pas connaissance à ce moment-là.
Parce qu'à partir du moment où il y a les parents et les enfants qui disparaissent, c'est pas comme quand un enfant disparaît. On peut pas faire les mêmes enquêtes. Je crois, j'imagine, il y a des degrés, non?
C'est-à-dire qu'il y a des niveaux aussi dans la police. Donc une enquête pour disparition inquiétante, c'était même pas la PJ de Nantes qui s'occupait de ça, c'était le commissariat. Et puis petit à petit, c'est monté progressivement, l'inquiétude a monté, jusqu'à cette fameuse conférence de presse où le procureur Ronsin avait réuni la presse, et pendant cette conférence, les policiers étaient en train de fouiller sous la terrasse, et c'est là qu'ils ont trouvé les corps.
Alors on va revenir sur cette affaire qui passionne toujours les Français. Pour être bien au clair, je vous propose un petit résumé avec quelques dates clés. Il faut ce que je t'ai demandé, Julien.
Dans quelle ville, mon père?
Non, pas du tout, Julien. Non, c'est pas grave, hein, c'est normal, c'est la libre antenne, on a Julien l'autre. Non, t'as une petite musique à me proposer, une petite musique de
fête. Tu vas retourner au foyer, Julien, je te le dis tout de suite.
Tu sais, t'as mes textes, hein, si t'as un problème. Hein. Même quand ça devient sérieux, tu veux pas faire l'émission, c'est fou ça.
C'est fou ça. Tu es là ou pas?
C'est pas grave, je vais vous donner les dates clés comme ça, t'embête pas. 1er avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès achète dans plusieurs magasins du ciment et une bêche. Le 2 avril, 4 sacs de 10 kilos de chaux. Dans la nuit du 3 au 4 avril, Xavier Dupont de Ligonnès tue très probablement sa femme, Agnès, et trois de ses quatre enfants, Benoît, Anne et Arthur. Le 5 avril, son dernier fils Thomas rentre à Nantes dans la soirée à la demande de son père. Il est probablement tué cette nuit-là. Le 11 avril, le collège de deux de ses enfants et l'employeur de sa femme reçoivent un courrier expliquant leur absence pour une mutation relation en Australie. Le même jour, 9 proches du couple reçoivent un courrier expliquant le départ soudain de toute la famille pour les États-Unis, parlant d'une double vie d'agent secret qu'aurait eu Xavier Dupont de Ligonnès. Dans la nuit du 12 au 13, Xavier Dupont de Ligonnès dîne seul et dort dans une auberge luxueuse du Vaucluse. Le 13 avril, sont passés de premiers appels à la police nantaise, car les voisins et la famille commencent à s'inquiéter. Le 15 avril maintenant, après une nuit passée au Formule 1 de Roquebrune sur Argent, on en a beaucoup parlé dans le Var, Xavier Dupont de Ligonnès est vu pour la dernière fois par un témoin avec un sac sur le dos. Le 21 avril, les enquêteurs découvrent les 5 corps d'Agnès et de ses 4 enfants tués par balles, enroulés dans des draps et de la chaux sous la terrasse de la maison familiale. La traque commence alors, c'est là que vous allez intervenir. Un mandat d'arrêt international est d'ailleurs émis le 10 mai 2001, mais depuis 15 ans, le mystère reste entier, des milliers de fausses pistes et de faux espoirs. Le 11 avril 2019, 8 ans et demi après les faits, l'invraisemblable même, un homme repéré à l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle est arrêté après avoir atterri à Glasgow. Selon la police écossaise, ses empreintes correspondent à celles de Xavier Dupont de Ligonnès. Finalement, cette arrestation est un fiasco total après un test ADN négatif. Pourquoi cette histoire, Gilles, rend fou ?
Pourquoi elle rend fou ? Parce qu'on est tous concernés, en fait. On est tous des pères de famille et on n'imagine pas qu'un homme comme ça puisse tuer ses propres enfants. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Xavier Dupont-Ligonnès, il a presque le même âge que moi. J'ai des enfants qui ont leur âge. On s'identifie, en fait. Hein. Donc, on n'imagine pas qu'un homme puisse tuer ses propres enfants et surtout qu'ils disparaissent après. Quoi.
Alors, évidemment, moi, ça fait écho à l'affaire de Jean-Claude Roman. Sauf que Jean-Claude Roman, lui, il avait fait un faux suicide bidon en se mettant près de la fenêtre pour être sûr de se faire attraper avant de mourir. Mais c'est vrai que, du coup, on se dit, on trouve pas. Enfin, il y a un côté exceptionnel, mais en même temps, on voit très bien le type, le point commun, c'est acculé par les dettes, par la pression qu'on se met soi socialement.
Et par l'image qu'on va renvoyer.
C'est vraiment, il y a beaucoup de points communs entre les deux affaires. Et sauf que voilà, ce qui change tout, c'est que on ne comprend pas cabale, suicide, on n'arrive pas à comprendre parce qu'en plus il y a quelque chose de mystique chez lui. C'est ça aussi qui change tout, c'est le côté c'est une affaire où le fait qu'il soit catholique pratiquant brouille les pistes. Parce que c'est vrai que c'est ça qui fait qu'on a du mal à se dire est-ce qu'il aurait pu faire ça ou est-ce que justement c'est parce qu'il croyait en Dieu qu'il s'est dit que c'est pas pour lui c'est pas dramatique ce qu'il a fait. C'est très dur de comprendre la psychologie.
Moi, je pense qu'on s'est un peu perdu justement dans cette piste mystique. En tout cas, moi, à l'office, je me suis vraiment noyé dedans. Il y avait de quoi se noyer, hein, puisque un simple fichier texte faisait 5 gigas, 5 millions de lignes à analyser. Vous plongez là-dedans, vous dormez plus. C'est d'ailleurs pour ça que le petit vélo il continue à tourner parce qu'il y a tellement de lignes que c'est inexploitable. Donc, évidemment, on utilise des logiciels d'analyse, tout ça. On fait des filtres et au final, on arrive à établir un itinéraire avec mes collègues des fugitifs, c'est-à-dire que eux traitent toute la partie téléphonie, des traces de son téléphone, mais malheureusement Xavier Dupont-Ligonnès, à partir de La Rochelle, en dessous de La Rochelle, il coupe son téléphone, donc mes collègues deviennent aveugles. Il reste plus que moi pour dire voilà où est Xavier Dupont-Ligonnès entre La Rochelle et Roquebrune.
En d'ailleurs, gros, où est-ce qu'il s'est connecté ? C'est-à-dire où est-ce qu'il se connecte et qu'il crée d'autres boîtes mail
donc,
pour essayer de le retrouver.
En gros, on arrive à déterminer où est-ce que Xavier y dort parce que tous les soirs, en plus ça c'est un truc de dingue. Le 8 avril encore quand il est dans la maison, il poste son dernier message sur Cité Catholique et tous les soirs, il se connecte sur ce fichu message mais quelques secondes comme si il attendait une réponse ou Donc une réponse, ça veut dire quelque chose. Pas de réponse, ça peut aussi vouloir dire quelque chose. Donc nous, on est.
Et puis quand ça arrête de borner, il y avait des traces en parallèle de ses connaissances qui bornaient pas loin.
Ouais, c'est ça. Moi, je disais toujours à mes collègues des fugitifs, faites gaffe quand il est dans un endroit, il est peut-être dans un autre parce que il est très malin. Ouais.
Alors ce qui est étonnant, c'est que il donne l'image de quelqu'un d'extrêmement machiavélique et de très calculateur.
Il est,
mais il y a aussi des fautes qui sont des fautes de débutants. Ou alors, tu te dis, mais alors, est-ce qu'il fait exprès ? Parce que c'est gros, l'histoire de « surtout n'allez pas près de la terrasse ». Franchement...
Non, c'est pas une faute. C'est pas une faute.
Il veut absolument qu'on aille près de la terrasse.
Ça, j'explique pour tous ceux qui n'ont pas peut-être suivi point par point cette... Cette histoire, c'est la lettre qu'il remet à tous ses proches, en tout cas qu'il envoie à tous ses proches. Et dans cette lettre, c'est là où il dit coucou, méga surprise, on est parti aux États-Unis. Il explique qu'il est agent double, qu'il doit être exfiltré, voilà tout ça. Et à la fin, il dit PS, tout le bazar près de la terrasse,
vous en occupez pas,
c'est tranquille, tout va bien. Et finalement, ça alerte les enquêteurs. Oui, Gilles.
Alors, en fait, là, vous êtes déjà dans le scénario de son film. Mais le film, il a déjà commencé. C'est-à-dire que quand la lettre arrive le 9 ou le 10 avril chez les gens, son scénario, lui, il a déjà démarré depuis environ le 30 mars. Moi, c'est ce que j'explique dans mon livre. Je pense qu'il y a une nuit particulière, la nuit du 30 au 31 mars. Parce qu'en fait, il y a toute une semaine qui précède les meurtres où les policiers ne savent pas ce qu'il devient, Ligonnès, puisque tous les jours, il disparaît dans l'ouest nantais, il coupe son téléphone, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Moi, j'ai refait tous ses itinéraires. Un truc de dingue, j'ai repris, je sais ce qu'il a comme voiture, il a une Xantia break grise, 2 litres diesel, j'ai calculé la consommation de sa voiture.
Déjà,
j'ai
regardé. C'était pas un homme de goût au niveau bagnole. Hein.
Non,
la Xantia diesel.
Il y a eu des époques où il y a eu des voitures plus grosses.
Oui, oui.
Et en tout cas, là, elles étaient plus petites.
Pardon, je vous ai coupé.
Du coup, je refais, moi, tous ces itinéraires, je passe partout où il est passé. Je regarde si ça colle avec les plaints qu'il fait pour voir si on le perd pas. Et ça me permet de trouver un endroit particulier à Saint-Nazaire où il a réservé une nuit d'hôtel dans la nuit du 30 au 31. Donc en principe, un homme qui réserve une nuit d'hôtel, c'est pour y dormir.
Ouais.
Sauf que je m'aperçois que dans l'heure qui suit, le type, il est à Nantes. C'est-à-dire que vers 15h, il est à Saint-Nazaire et avec sa carte bleue, il réserve une nuit d'hôtel pour 4. C'est-à-dire que c'est ces hôtels où il y a une chambre en bas avec un double lit et puis étage.
Mezzanine.
Bon, peut-être que cette chambre était la dernière libre. En tout cas, le type, il réserve une chambre d'hôtel, sauf qu'il rentre à Nantes. Il passe la soirée à Nantes, au stand de tir avec son meilleur ami Emmanuel Teneur. Après le stand de tir, vers 22h, ils vont en centre-ville. Donc, c'est certainement une des dernières soirées qu'ils vont passer ensemble. Et à 1h du matin, Xavier Dupont de Ligonnès dépose son meilleur ami chez lui. À Nantes, c'est au bord de la rivière là, et son téléphone s'éteint. Donc là, c'est justement quand Xavier Dupont-Ligonnès coupe son téléphone qu'il faut s'intéresser, c'est pas quand il est allumé. Et donc Xavier Dupont-Ligonnès va disparaître jusqu'au lendemain, 12h, où son téléphone va se rallumer, mais au milieu de la Bretagne, à Locmalo, chez ses deux amis garagistes, des garagistes de voitures américaines. Donc où est Xavier Dupont-Ligonnès entre le 30 à 1h du matin et le 31 à 12h, on sait pas s'il a dormi là. En tout cas, je vous explique parce que c'est hyper important. Ça peut être un peu embêtant pour vos auditeurs.
Pas du tout, c'est très intéressant. Pas du tout. Chez les autres, mais nos auditeurs qui écoutent.
Ça, c'est vraiment un point crucial de mes recherches. Le 31 au soir, donc il vient de disparaître pendant plus de 7 ou 8 heures. Il arrive chez lui à Nantes. Il envoie un message à une femme qu'il a connue dans sa jeunesse à Versailles en lui disant « c'est imminent ». Nous allons partir aux États-Unis. J'attends juste la confirmation. C'est la première fois dans toute la chronologie de Xavier Dupont de Ligonnès que Xavier annonce leur départ imminent.
Il place les billes pour après.
Voilà, il annonce le départ, mais c'est pas encore sûr parce qu'il attend une confirmation. La confirmation, elle va arriver plus tard. C'est un truc de dingue. Donc, on est le 31 au soir. Et ce soir-là, il rédige la lettre de résiliation du bail de la maison du 55 Schumann. Alors, faut imaginer, sa femme, elle est à l'étage, les gamins sont à l'étage, et lui, il est en bas, il résilie le bail. Donc, de toute façon, là, on est...
De toute façon, il restait tout le temps tout seul dans cette espèce de cave, là, où il...
Ouais, dans sa cave.
Il vivait dans son
monde.
Pour
moi, il y a un événement qui s'est passé la nuit d'avant, qui fait qu'il sait que c'est pour ce week-end, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à déterminer dans la chronologie que jusqu'au 30, il sait pas quand est-ce qu'il va les tuer. Un autre détail. Vous savez que les enfants, toute la famille n'a pas été tuée en même temps.
Non, il y a le dernier qui a été tué 2 jours
donc
après.
Donc si Xavier avait tout prévu,
pour ses études.
Il se serait arrangé pour les tuer tous en même temps. Il n'aurait pas attendu qu'il y en ait un qui parte. Donc le gars, il y a dû y avoir quelque chose qui a
accéléré le processus.
Il faut que ce soit ce week-end. Sauf que Thomas, lui,
il n'est pas là.
Il n'était pas là.
Il a rangé, je crois, c'est ça. Il est étudiant.
Il n'est pas rangé le dimanche. Et donc je vais vous la faire courte, sinon on y est encore là demain matin. Donc
nous, on n'a rien à faire cette nuit.
Mais en gros, la confirmation qu'il attend arrive dans la nuit du mardi au mercredi à 2h du matin. Il envoie un mail à un ami. Je viens d'avoir la confirmation que je pars aux États-Unis. Et à 3h du matin, il n'y a plus eu aucune trace de Thomas, c'est-à-dire qu'ils sont tous morts.
Et ça signifie quoi tout ça ? Pourquoi il envoie ça à un ami ? C'est-à-dire qu'il prépare sa fuite à ce moment-là ?
Je ne sais pas ce que ça... Pour moi, ce que ça signifie, c'est que le gars, il annonce qu'il attend quelque chose pour commettre les faits. Et après, il annonce son départ.
J'entends, mais par exemple, il n'y a jamais eu aucune confirmation. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu...
La confirmation, ça veut dire je suis libre, enfin, ils sont tous morts, je peux retrouver ma liberté. Okay. C'est ça, la confirmation.
C'est ça que ça veut dire.
Il n'y a pas de possibilité...
Pas un coup de fil.
D'imaginer une possible schizophrénie, c'est-à-dire...
Oui, alors là, il y a certainement ça.
Voilà, c'est-à-dire d'arriver à se convaincre que de ce qu'on s'invente, parce qu'à un moment donné on se demande s'il passe pas par différents états, c'est-à-dire s'il arrive pas à se convaincre pour pouvoir avoir la force de faire tout ça, à se convaincre que effectivement il a un destin ailleurs, parce que les États-Unis c'est une vieille histoire pour lui. Il a fait un périple aux États-Unis
beaucoup,
et même à la limite à la lumière de ce qu'on sait, on se demande si c'est vraiment la vie qu'il voulait, tout ça là, les gosses, les machins, parce qu'évidemment le poids de ce qu'il représente,
vous avez famille, mis le doigt dessus, effectivement. Finalement, quand on regarde qu'est-ce qui se passe après les meurtres, le type, en fait, il retrouve sa jeunesse, sa liberté. Et exactement. Si vous regardez son voyage, il est en train de remonter le temps. Et si vous regardez vraiment toute la chronologie, dans toute sa longueur, il va remonter le temps jusqu'à 1990. Et 1990, c'est pas anodin. C'est l'année qui précède la date de son mariage. Et c'est la fameuse année où il était...
C'est le retour des États-Unis avec son pote.
L'homme libre, heureux, joyeux. Donc
même dans ses amitiés, le fait de partir aussi longtemps avec un pote, il y a un côté
des frères.
Ses frères, même un de ses meilleurs amis qui est lui homo, je crois, celui à qui il vole de l'argent. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui a une vie de famille classique, machin. Donc, comme si lui, en vrai, c'était cette prison là, c'était un truc social, et qu'en vrai, il a juste terminé un travail qu'il aurait dû faire avant, c'est-à-dire avant d'avoir une famille.
Il a écrit un livre sur l'affaire Ligonnès.
Mais presque. Hein.
C'est pas mal.
Parce que c'est ça qui ressort de ce type.
Bien sûr,
c'est des histoires qu'on a vues plein de fois, des gars qui se rendent compte à 55 ans qu'en fait c'est pas leur vie, et qu'en fait et sauf
t'as
que
un
là.
Un truc à nous avouer ou pas?
Oui. faites pas gaffe. D'ailleurs, j'ai fait les travaux près de ma terrasse.
Ouais, t'inquiète
faites pas.
Pas
attention.
Non, mais par rapport à ce que vous dites, on va partir sur la théorie et l'hypothèse de la cavale. Son ami Michel Rétif, l'un de ses amis, a été auditionné par les enquêteurs il y a quelques années, car au moment où Xavier Dupont de Ligonnès fait son périple dans le sud, on en a parlé, lui n'est jamais très loin. Il borne, et son téléphone borne juste à côté. Lors de ses auditions, il va révéler avoir reçu un courrier de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est un extrait du documentaire Ligne Rouge sur BFM TV.
Le 12 avril 2011, ma copine découvre dans la boîte aux lettres une nouvelle enveloppe, postée le 9 avril, et contenant les photos souvenirs de nos voyages avec Xavier aux États-Unis. Elles étaient accompagnées d'un message, souvenir, souvenir.
Et c'est vrai que quand il y a ce petit message de Xavier qui lui dit on se retrouvera là où tu sais ou Dieu sait quoi.
Je penserai bien à toi là-bas. Pas le droit de te dire où, mais tu y es passé avec moi, en novembre 90. Un 10 à creuser. LOL.
Il faisait pas allusion au paradis blanc, non, il faisait allusion, je pense, à cet endroit où ils avaient été très heureux, enfin surtout Xavier, qui était ce petit village au Texas qui s'appelle Alpine, où Xavier avait rencontré une Texane qui s'appelait Mindy, qui avait un grand ranch. Xavier m'avait envoyé des photos et tout ça, il m'avait dit que c'est vraiment l'endroit où j'étais le plus heureux, où je terminerais ma vie.
Gilles Gallou, vous êtes parti aux États-Unis pour enquêter. Est-ce que aujourd'hui on peut dire, en tout cas vous, votre principale thèse, c'est de dire qu'il est parti aux États-Unis?
Non, j'ai pas de thèse. J'explore des pistes et je ferme ou je laisse des portes ouvertes. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc les États-Unis sont une de mes pistes. J'y suis allé. En fait, le but de mon voyage aux États-Unis, c'est justement d'aller explorer l'indice à creuser. Parce que Bruno de Sabenrad, que vous venez de passer, il dit que l'indice à creuser, c'est Alpine. C'est pas si évident que ça. Moi, je l'ai travaillé, cet indice à creuser. Michel Rétif, quand il reçoit cette lettre, il écrit pas Alpine. Il écrit une plage à San Francisco, par exemple.
Ouais.
Donc, il faut bosser. Et il se trouve que je trouve un carnet de voyage écrit de la main de Xavier Dupont de Ligonnès. Ça, c'est une pièce majeure, puisque je vais pouvoir réussir à reconstituer tout le voyage de Michel Rétif et de Xavier Dupont de Ligonnès en novembre 90. Donc je les vois arriver à New York. Ils descendent en Floride et de la Floride, ils traversent d'ouest en est le sud des États-Unis jusqu'à San Francisco en passant par Alpine. Et c'est justement Alpine qui m'intéresse parce que je retrouve dans les mails qui sont échangés pendant la semaine où Xavier Dupont-Ligonnès reste dans la maison
après avoir tué toute sa famille.
Parce que c'est très très compliqué à expliquer, c'est pour ça que le livre fait 300 pages. C'est que Xavier Dupont-Ligonnès, il a demandé des photos à pratiquement tous les proches qu'il a rencontrés avant de partir. Et justement, il a demandé des photos à Michel Rétif dans la nuit du 7 au 8 avril, et Michel lui a envoyé 3 ou 4 photos. Et sur ces photos, il y a des photos de jeunes femmes. Et donc j'ai présumé que ces photos avaient été prises dans cette ville du Texas, et moi j'ai tenté d'envoyer cette photo sur un forum Facebook du Texas. Mais vraiment une bouteille à la mer. Et sans y croire d'ailleurs. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu 9 notifications sur mon téléphone de femmes qui me disaient « Mais oui, moi j'étais là ce jour-là avec eux, on a passé avec les Frenchies, avec Michel, il l'appelait Michael. » Et donc elles commencent à me raconter qu'ils ont été au bar Le Cristal. Le Cristal.
Ah tiens, comme par hasard.
Voilà.
Le nom de la société qu'il avait créé.
Donc voilà, en fait ça c'est les pièces du puzzle qui commencent à s'assembler, hein, puisque moi finalement j'ai un puzzle.
Et c'est marrant parce que donc, comme on dit, il est machiavélique, mais il laisse des traces. Comme
oui, il est le petit poussé.
C'est ça, c'est le Cristal. C'est, tiens, comme par hasard, ça tombe là sur une carte de visite.
Ouais. Oui, mais ça veut pas dire qu'il est parti aux États-Unis. Ça veut dire qu'il aime les États-Unis. Qu'en 90, qu'est-ce que vous avez découvert là-bas aux États-Unis?
Alors ça, je peux pas vous le dire puisque bon, moi, je suis un ancien policier, donc j'ai pas forcément assez d'argent pour financer toute mon enquête, hein, qui dure depuis 2024 à 2026. Donc j'ai eu la chance d'être accompagné par une équipe de Canal+ qui a financé mes recherches. Hein, et donc, quand je leur ai expliqué que j'avais une piste comme ça aux États-Unis, ils ont dit « Bon, banco, on te suit ». Donc, ils m'ont accompagné. Et donc, ils vont sortir un film qui va être une méga-tuerie.
Je demande à Maxime Saada qui nous donne la primeur du truc.
Et franchement, vous allez voir
ça
justement
sort quand
toute l'enquête.
Sort quand, du coup
je pense que, d'après ce que j'ai compris, ils sont en montage, donc peut-être à l'automne. Donc, moi, j'ai commencé à voir quelques images. Et en fait, ils ont filmé toute mon enquête. Et je pense que ça va être un film extraordinaire sur l'affaire Ligonnès.
Ouais. Ah, c'est un film extraordinaire, mais est-ce qu'on apprendra de nouvelles choses?
Bien sûr, des révélations.
Non, parce qu'on nous a fait le coup des révélations il y a 48 heures.
Non, je déteste ce mot-là, c'est vraiment le mot à la mode. Ouais. J'ai jamais imaginé que j'allais partir aux États-Unis et que j'allais ramener Xavier Dupont-Ligonnès dans mes valises. C'est mon enquête.
Moi, je l'ai espéré. Hein.
C'est dommage, mais non, c'est.
C'était qui Joao dans le.
C'est le fantasme. C'est pas un one shot. Je vais pas aux États-Unis en one shot. C'est. J'y vais, je trouve des indices. Il faudra peut-être que j'y retourne ou que je retourne au Mexique ou je ne sais où. Je ne suis pas convaincu que Xavier Dupont-Ligonnès soit toujours aux États-Unis. Moi, je remonte le petit poussé. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis allé à Alpine. Je pense que c'était peut-être la destination finale du voyage qu'il a entrepris du 10 avril à De Roquebrune et après. Voilà, j'en suis là et maintenant aujourd'hui je poursuis, j'écris le deuxième livre et donc il faut que j'enquête en même temps.
Alors pour ceux qui ne sont pas des férus de l'histoire au départ mais qui la découvrent, qu'est-ce qui l'empêche? Parce qu'il a la chance qu'il a, entre guillemets, c'est qu'il a tout créé pour avoir un laps de temps pour faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'avant qu'on découvre les corps, il est quand même tranquille. Et qu'est-ce qui l'empêche de partir tout de suite? Il a besoin, il a un truc initiatique à vivre avant. Pourquoi il part pas tout de suite? C'est une vraie question, ça.
Ben, c'est une vraie question, effectivement. On sait où il dort.
Ouais.
On sait qu'il dort à La Rochelle. D'ailleurs, quand on parle de cavale, c'est pas du tout une cavale. Hein. Vous avez déjà vu un homme qui cavale et qui.
Non.
Qui se montre partout.
Ouais, et puis au distributeur, à l'hôtel. Ouais. Ouais. Puis ça peut pas être une cavale alors qu'on n'a pas découvert les corps.
Alors il y a quand même un petit bémol sur cette cavale, c'est que on sait où il dort, mais on ne sait pas ce qu'il fout la journée. Excusez-moi de parler comme ça, mais on sait par exemple, moi j'ai vu les relevés bancaires de Xavier Dupont-Ligonnès, il a toujours fait le plein avec sa carte bleue. Entre le 10 avril et Roquebrune sur Argence, il a jamais fait le plein une seule fois avec sa carte bleue. Donc ça dit quelque chose. C'est on sait qu'il part par exemple de La Rochelle qui va au Pontet, mais entre les deux il fait quoi? On n'en sait rien et il fait le plein. Dans ce voyage, mais on sait jamais où.
Sauf si quelqu'un lui a fourni du liquide entre-temps.
Il a du liquide, ça, ouais. J'ai pu démontrer dans mon enquête, il a du liquide.
Mais il retire quand même de l'argent au distributeur. Alors qu'il a du liquide.
Il retire 30 euros à la fin. Ça,
voilà.
Ça, c'est, je vous raconterai si vous.
Juste pour le formula.
La dernière mise en scène de son scénario.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire, allez-y.
Parce qu'il veut scénario, être vu. Il veut être vu. Quand alors, il fait ça.
Moi, je vous dis, Xavier Dupont-Ligonnès, il a écrit les meurtres du début jusqu'à la dernière scène qui est à Roquebrune. Il a tout. J'en suis sûr que c'est écrit dans son ordinateur. C'est un mec, C'est un dingue. Il écrivait tout.
On rappelle juste que ces ordinateurs n'ont jamais été retrouvés non. et qu'on.
Mais j'ai retrouvé beaucoup de documents.
Qu'on présume que ces ordinateurs ont été balancés, qu'il les a balancés dans un étang ou dans une rivière.
Il stockait toutes ces données personnelles sur ses serveurs. Il a tout effacé et j'ai tout remonté. Donc ça, il n'avait peut-être pas calculé ça, parce qu'en fait, dans les jours qu'on suivit les meurtres, il a passé beaucoup de temps à essayer d'effacer ses traces. Il faut savoir que les opérateurs Internet...
Ils ont des clouds.
Ils ont des clouds, mais ils ont surtout des backups en cas de crash. Ah oui. Donc lui, il a tout viré de ses serveurs, sauf que moi, j'ai appelé Free et je leur ai dit, dis donc, vous auriez pas un backup de données de Ligonnès avant effacement. Et donc j'ai récupéré 3 backups, et donc j'ai récupéré tous ces documents. Et c'est là, en étudiant ces documents, que je trouve des écrits de dingue, bon, mystique, tout ce que vous voulez, mais surtout, le mec, par exemple, quand il avait un rendez-vous de commerce, le type, avant d'y aller, le soir, il dormait dans tous les hôtels, il écrivait du bonjour jusqu'au au revoir, 10 pages, il imaginait les réponses du mec, ça, mais c'est dingue.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Oui. Et donc, moi, c'est pour ça que je vous dis, le mec, le scénario des meurtres, il est écrit de A à Z, dans tous les détails. Et quand il y a un problème qui survient, il le gère. C'est ce qui se passe dans la nuit du mardi au mercredi quand il doit tuer Thomas. Ça, c'est fantastique, cette nuit-là, entre guillemets.
Son bénéfice.
Parce que il survient à un problème dans le plan. C'est-à-dire qu'il appelle son fils, il faut qu'il fasse revenir. Donc, il trouve un stratagème, il l'appelle, il lui dit, maman a eu un accident de vélo, il faut absolument que tu rentres. Donc, le gamin, il prend le train. Sauf que, entre-temps, il y a son ami Emmanuel Teneur, ce soir-là, qui lui envoie un SMS en disant, je vais pas bien, j'ai envie de me foutre en l'air. Mais vous imaginez, donc il doit avoir la carabine qui est prête, dans 2 heures, mon fils sera mort.
Il a qu'à lui dire, viens, parce que là je suis pas mal là en ce moment, pire.
Donc Xavier, il doit se dire, mais putain, mais tu pouvais pas choisir un autre jour pour te flinguer mon gars, quoi. J'ai autre chose à faire ce soir, je suis occupé. Donc Xavier, il gère. C'est-à-dire son scénario, il est écrit, et là il y a un problème, il faut gérer. Et il gère, il va devant son ordinateur, il envoie un mail au petit copain d'Emmanuel, en lui disant, Michel va pas bien, occupez-vous de lui. Sauf que les mecs, ils habitent à 400 bornes. Lui, il habite à 2 km de son copain. Et les copains, ils réagissent pas en disant,
c'est pas logique, ouais.
Ouais, c'est pas logique, mais pourtant, c'est comme ça. Donc lui, il se dégage du problème d'Emmanuel. Et vous savez ce qu'il fait? Il est à peu près 22 heures. Le gamin, il est dans le train entre Angers et Nantes. Il sort, il va au Carrefour Market du coin. Il s'achète une entrecôte, une bouteille de vin rouge d'une nuit Saint-Georges. Du Roquefort, enfin, il se fait son petit repas. Il n'a pas acheté 4 ou 5 beefsteaks, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire ils sont encore vivants, mais non, il s'est acheté un repas pour lui tout seul, donc il n'y a plus personne d'autre qui veut manger. Ça dit des choses, hein, quand on étudie la chronologie. Donc le mec, il s'apprête dans quelques minutes à tuer son fils, et le mec, il se fait son petit repas avec sa petite côte de bœuf. Non, mais je rêve, quoi.
Oui, parce que dans sa tête, il s'est raconté une histoire où il ne le dramatise pas comme nous, je pense.
Oui, complètement.
Il s'invente une histoire.
Vous êtes dans la psychologie, effectivement. Là, c'est.
C'est du coup quelque part, il apaise, il règle un problème là. C'est-à-dire que là où il a eu vécu des angoisses, quand on voit là ce que vous racontez, c'est un gars qui était ultra angoissé, qui pouvait rester des heures chez lui, et là, tout d'un coup, il a l'air presque relâché dans un moment où n'importe quelle personne serait au contraire ultra tendue.
Mais alors en plus, il y a une énorme froideur, c'est parce que la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il laisse pas la vie sauve à Thomas? Donc, il faut faire la question inverse, c'est si Thomas ne meurt pas, qu'est-ce qui se passe?
Et tout tombe à l'eau.
Pourquoi?
À son plan. Parce que lui, il peut pas disparaître, il peut pas.
Il faut impérativement tuer Thomas, parce que si Thomas reste vivant, il va découvrir qu'il y a un problème dans la maison, il va appeler la police. Donc, de toute façon, Thomas, déjà depuis le dimanche soir, il est déjà.
Condamné.
Condamné.
De toute façon, il y a un côté aussi. Si tout le monde meurt, psychologiquement, il n'y a plus de victimes. Il n'y a personne qui souffre.
Oui, c'est une façon de voir aussi. Mais moi, je suis en contact avec un grand gendarme qui s'appelle Abgral, qui a résolu des grandes affaires criminelles. Et il m'a dit, Gilles, il faut que tu sortes de la boîte et que tu regardes l'affaire avec un œil différent. Et il m'aide beaucoup, d'ailleurs, à réfléchir à ces questions que je vous dis là. Il dit, essaye de comprendre pourquoi, dans les affaires criminelles, quand il y a un meurtre, il m'a expliqué qu'il y a une descente. Après un crime, et le gars, il peut avoir aussi un moment où il se dit, merde, c'est une connerie. Mais là, il descend pas, Xavier. Il continue, c'est-à-dire qu'il a tué déjà 4 personnes, il les a probablement enterrées, d'ailleurs. Et il descend pas. Le mec, il y va jusqu'au dernier. Et à la fin, une fois que tout est fini, il envoie un message, ça y est, yes!
Et alors, on revient sur cette histoire du Formule 1 de Roquebrune sur argent, où il retire 30 euros dans un distributeur.
Et donc, c'est la scène finale.
La scène finale.
Soit disant pour payer en liquide.
Comment vous l'expliquez, cette scène finale?
Alors, moi, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la cavale. Je peux vous garantir que Roquebrune sur Argence, on ne sait pas du tout que ça existe à l'époque. Moi, je ne connais même pas le nom de la ville. Donc, c'est qui nous donne le nom de la ville? C'est lui-même. Parce que depuis qu'il est parti du Pontet, il n'a pas utilisé sa carte bleue. Il va aller retirer 30 euros dans un distributeur où il y a une caméra. Il n'est pas fou. Je veux dire, le mec, il sait très bien qu'on va le trouver. Donc, c'est Ligonès qui se géolocalise à Roquebrune. Et qu'est-ce que ça déclenche? Alors déjà, il y a l'histoire des 30 euros, donc ça parle. Hein, ça veut dire, je suis au bout du rouleau, regardez, il me reste que 30 balles pour finir la soirée. La chambre a été déjà louée avant d'arriver. Hein. Il est d'abord arrivé à l'hôtel, il a réservé la chambre sous le nom de Xavier Dupont. Il va au distributeur vers 17h. Il retire ses 30 euros. Donc ça veut dire, regardez, je suis fauché. J'ai perdu le fil, je suis fatigué, j'ai pas l'habitude.
Il est que minute 35, ça va.
Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Donc là, oui, il est entre guillemets au bout du rouleau au niveau de la thune, et c'est le dernier moment.
Qu'est-ce que ça dit? Les policiers, comme vous avez dit tout à l'heure dans votre résumé, ils sont à milieu de là, puisqu'on est le 13, on est le 14 même.
Ouais.
Ils viennent juste d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante.
Voilà, les corps vont être découverts une semaine plus tard.
Donc le mec, il est tranquille, quoi.
Ouais.
Donc, il retire ses 30 balles, il fait sa petite soirée, et je perds encore le fil, mais je suis vraiment fatigué.
Ben non, mais
ça déclenche une fiche de recherche. Quand les corps seront découverts, après, ils vont dire, bon, bah voilà, ils vont commencer à chercher, et donc ils vont dire, bah voilà, il a retiré 30 balles à Roquebrune, donc ça va déclencher une fiche de recherche des policiers, en disant, Xavier Dupont-Ligonnès a été vu à Roquebrune sur Argence le 14 avril à 17h. Mais tout le monde pense qu'il a poursuivi sa route vers l'Italie. Puisque il y a un bruit de au-dessus. Personne n'imagine qu'il est dans l'hôtel. Donc comment on le trouve, l'hôtel?
C'est grâce aux caméras.
Mais les caméras, mais...
Oui, il faut chercher pour savoir qui est
caméras.
Mais non,
mais on ne va pas visiter tous les hôtels de France. Comment on trouve l'hôtel, selon vous?
Ça, c'est une bonne question.
C'est vous l'enquêteur.
C'est à côté de là où il a retiré de l'argent, non?
Non. Est-ce que vous savez où Xavier Dupont-Ligonnès a abandonné sa voiture?
Sur le parking du Formule 1.
Voilà. Donc, qui c'est qui garde sa bagnole devant le parking?
Oui.
Donc, quand il garde sa voiture devant le parking, il dit regardez, j'ai dormi là.
Oui, c'est...
Et qu'est-ce qu'il y a dans l'hôtel? Il y a des caméras. Et là,
on voit qu'il y a une caméra qui le voit derrière.
Et puis lui, il passe sous les caméras et c'est là qu'on voit le spectacle.
Il regarde même une caméra à un moment donné.
C'est un spectacle. Moi, je les ai vus, les images. Ouais. Je les ai regardées des centaines de fois. Mais c'est un sketch, quoi. Le mec, il passe sous la caméra. Mais parce que le mec, il sort de sa chambre mille fois, il passe sous la caméra, il a le livre de Bernard Minier glacé, qui est un thriller. Comme ça,
d'une personne qui a tué toute sa famille.
Aussi. Il y avait aussi déjà un Arlene Cobain, je crois, qui raconte.
Il y a deux livres, il y a Agatha Christie et il y a Arlene Cobain, qui n'arrive jamais.
Voilà.
Sur chaque table de nuit.
Donc c'est pas mal.
Enfin, bon, tout est mis en scène, c'est-à-dire de la maison jusqu'à Roquebrune. Et donc je vous dis, Roquebrune, c'est la mise en scène. Et donc il passe. Le dimanche matin, il sort de l'hôtel. Je vous la fais vite parce qu'on pourrait y passer deux jours sur cette soirée-là. J'ai beaucoup de choses à raconter, mais on va pas y passer la nuit. Le lendemain matin, il part en voiture vers 10h. Donc le mec qui a dormi dans un hôtel, il part à 10h, il revient pas. Il revient à 16h. Il garde sa bagnole sur le parking. Il a été jeter son ordinateur puisqu'il l'a plus. Il met sa sacoche. Alors c'est pas une sacoche. Hein. Tous les gens disent un sac. C'est une.
C'est une housse.
Un porte-costume.
Ouais.
Vous savez les trucs.
Ah oui. Là. Merci, monsieur.
Donc il le met bien sur l'épaule gauche, côté caméra. Il y a une légère forme pointue qui dépasse de
donc on peut imaginer que c'est le 22 long rifle.
Tout le monde plonge dans le truc.
Ouais.
Tout le monde. C'est regardez, je pars me flinguer. Et l'enquête plonge dedans et plonge encore aujourd'hui.
Alors justement, dans les différentes.
On en parlait. Excusez-moi. On en parlait hors antenne. Le fameuse théorie du suicide, ce qui est complet, c'est que quand on est, vous avez été enquêteur, quand on est enquêteur, la théorie du suicide quand il n'y a pas de corps, c'est quand même complexe.
Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de carabine.
c'est quand on met la charrue avant les pneus, comme dirait l'autre.
Moi, ce qui m'intrigue, si vous voulez, c'est que quand j'étais enquêteur à l'époque, il y avait ce qu'on appelle un profiler, c'est-à-dire un psycho, c'est un nom, criminologue, psycho, je sais pas quoi.
Psychocriminologue?
Oui. Qui avait fait un rapport dans lequel on pouvait lire que justement l'option de Xavier Dupont-Ligonnès n'était la première option n'était pas le suicide. Et donc le profiler explique que il n'est pas parti se suicider, que s'il devait se suicider c'est parce qu'il serait coincé. Mais il y a tellement de jours d'avance que l'hypothèse du suicide est abandonnée par le profiler.
Il n'a jamais été coincé.
Et pourtant l'enquête part dans une autre direction. C'est-à-dire que l'enquête s'oriente sur la piste du suicide. Et voilà, et on va aller fouiller les cavités. Et ça fait 15 ans qu'on fouille des tombes, et ça fait 15 ans qu'on veut qu'il se soit suicidé. Donc moi, je suis parti de ce postulat. Moi, j'étais policier à l'enquête cyber. Je suis jamais allé sur le terrain dans ce dossier-là. Donc ça m'a manqué, hein, moi, de pas. Et donc moi, j'ai, à un moment donné, j'ai depuis chez moi où j'habite, j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à faire Google Maps comme tout le monde. Hein. Ouais. Puis j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se passe. Et puis à un moment donné, je vois qu'à 100 mètres de l'hôtel, il y a un loueur de camping. Non, il y a une ribambelle de loueurs de camping-car. Il y a que ça. Il y a des vendeurs de voitures d'occasion ou des trucs de camping-car. Puis je commence à faire mon boulot de flic, même si je suis toujours à la retraite. Donc je fais les sociétés.com, je sors les registres du commerce, blablabla. Et à un moment donné, je m'aperçois que Hippocamp, c'est une société de camping-car, a une filiale à Nantes. Mais pas n'importe où à Nantes, à 50 mètres du Castorama. Je suis en train de faire un lien
entre
Nantes et Roquebrune-sur-Argens, ce qui n'a jamais été fait dans l'enquête. Donc là, je dis, c'est quoi le truc? Est-ce que Ligonnès a loué un camping-car? Ah non, je sais pas. En tout cas, il y a un lien. Et là, à partir de ce moment-là, je rentre en contact par hasard avec les gens de Canal+, qui apprennent ce que j'ai découvert et disent, Banco, on va avec toi, on se rejoint à...
Alors, si vous ne pouvez pas tout dévoiler dans ce que vous allez diffuser dans le documentaire sur Canal+, est-ce que vous êtes allé...
Ça, je le lis dans mon livre, je vous en parle.
J'imagine que vous êtes allé voir ces gens qui louent des camping-cars.
Voilà, et c'est là où démarre mon enquête de terrain. Donc je vais dormir dans l'hôtel où a dormi Xavier. Ça, c'est très instructif.
Chambre 202 ou pas?
Ouais, chambre 202. Moi, j'ai pas dormi dans la 202. J'ai dormi sur le côté autoroute, j'ai pas dormi de la nuit. Hein. J'ai eu l'impression d'avoir 1038 tonnes qui traversaient mon lit. Ouais. Donc c'est vraiment pas l'hôtel du Ponté, hein. C'est le contraire. Ouais. Là, c'est bon. Mais en tout cas, il faut faire l'expérience, parce que finalement, ça raconte aussi. Et donc, quand on est sur place, on va voir les mecs d'Hippocamp, des camping-cars. Et malheureusement, ça a changé plusieurs fois de propriétaire depuis. Ça a changé d'ordinateur. Les disques durs ont été changés. Donc, de toute façon, c'est mort.
Il n'y a plus de traces.
Ouais, okay, il n'y aura plus de traces. Pour parler de la thèse du suicide, là, dans cet extrait de Toujours Ligne Rouge sur BFM TV, exactement, vous allez entendre des enquêteurs et écrivains qui ont écrit sur cette affaire. Et pour eux, après avoir tué sa famille, eh bien, Xavier Dupont du Ligonnès est allé dans le sud de la France pour une sorte de dernier périple avant peut-être de se donner la mort. Et après, on revient sur ce que vous dites.
S'il est allé là, dans cet hôtel, il y a certainement une raison. Ma conviction, c'est qu'il s'est suicidé et que son corps se trouve dans une zone qui est proche de Roquebrune. Si on le regarde de très près, son périple dans le sud, on voit qu'il remonte à l'envers le fil de sa vie. Ça, c'est frappant. Il repasse par les endroits où il a vécu. Draguignan, l'Orgue, Grimaud, où il a habité, où il allait être enfant. Et que là, ensuite, il décide de disparaître dans un endroit qu'il connaît très bien.
L'arrière-pays est un endroit qu'il connaît, qui est un endroit très compliqué, avec énormément de cavités, de ravins. Et donc, les enquêteurs se disent, il est parti à pied avec sa housse, il y a l'arme dans sa housse, il est allé suicider dans l'arrière-pays.
L'enquête est partie totalement là-dessus.
Et bien là, tout le monde a envie de se raconter une histoire aussi, j'ai l'impression. Tout le monde se convainc.
Bah oui, mais en même temps, ça a du sens. Aussi.
Oui, mais enfin, je veux dire, être suicidaire, j'ai envie de dire, c'est pas donné à tout le monde. C'est que ça nous vient pas comme ça d'être suicidé, c'est-à-dire que ça vous vient pas comme une envie de pisser.
Oui, mais justement, il a préparé tout son périple pour justement aller revoir les choses de son enfance qui lui rappellent son enfance avant de se donner la mort.
Oui, c'est.
Ce qui est super intéressant, c'est dans les voix que vous venez de passer, j'ai reconnu la voix d'Anne-Sophie Martin qui a fait une interview il y a quelques jours sur RTL, et je suis entièrement d'accord avec elle. C'est-à-dire que il a réussi quelque chose, il avait du point de vue, c'est sa disparition. C'est ce qu'elle dit. Moi, elle croit pas non plus à la thèse du suicide. C'est très clair ce qu'elle vient de dire.
Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'on veut qu'on croit à ça.
Bien sûr.
Vous n'y croyez pas du tout.
À la thèse du suicide.
Oui.
Mais absolument pas. Dans tout mon livre, je parle au conditionnel, sauf dans ce passage-là. C'est-à-dire que moi, là, je suis plus que convaincu qu'on est sur une fausse hypothèse.
Donc, surtout que convaincu, forcément, que Xavier Dupont de Ligonnès est encore vivant. Ou en tout cas, a vécu plusieurs années.
Non, alors,
c'est votre intime conviction.
Je reprends le fil, je vais vous dire pourquoi je suis encore plus convaincu, puisque je suis donc. Dans cet Hippocamp, ce magasin de camping-car, les 10 me disent, les gars, c'est mort, vous ne trouverez rien. Et je décide d'aller faire du porte-à-porte, mais alors tout le monde. Hein. Les magasins de voitures, je fais tout Roquebrune, je vais frapper à toutes les portes. Et à force de frapper, donc finalement, qu'est-ce que je fais? Je fais une enquête de voisinage, hein. Mais 13 ans plus tard. Ouais. Et à force de faire...
Qui n'avait jamais été faite?
Qui a été faite?
Non, mais qui n'avait jamais été faite?
Qui a dû être faite. Mais moi, j'étais à Paris à l'époque, j'étais à Nanterre.
Ok.
Mais moi, je dis, voilà, je reprends l'enquête du 15 avril à 16h et j'y vais. Et à force de frapper à des portes, j'entends l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a une femme qui a peut-être vu quelque chose. Là, bah, vous savez, vous êtes journaliste, si on vous dit ça, vous y allez. Hein. Donc je finis par retrouver cette femme qui est passée chez Julien Courbet, que vous avez dû entendre. Hein. C'était hier ou avant-hier?
C'était avant-hier, c'était mardi soir.
Ouais.
On va en diffuser un extrait dans quelques instants. Mais
voilà,
vas-y,
et donc, premier témoin, fantastique. Parce que, alors, en plus, c'est une femme extraordinaire. Elle vous raconte le truc, vous y êtes. Hein. Elle, il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Elle a vu Xavier Dupont-Ligonnès. Elle décrit la sacoche dont je vous ai parlé.
Elle a des détails qui ne sont pas dits dans les enquêtes.
Elle, il n'y a même pas de doute. Elle le voit. Enfin, elle le reconnaît parce que deux jours ou trois jours après qu'elle le voit, elle voit sa tête à la télé. Et puis elle dit à son mari, non mais, il était là, quoi. Donc, bon, un témoin, comme dit Ondelat, là j'ai entendu Ondelat sur un podcast, il dit, un témoin, ça vaut rien. Pour avoir un bon témoignage, il faut en avoir 10. Il a raison. Donc moi, je connais ce truc. Un témoin, aujourd'hui, s'il n'y a pas de caméra, s'il n'y a pas de photo, c'est mort. Donc moi, je me dis, bon, ok, il y a un témoignage.
Il faut que ça se recoupe avec d'autres choses.
Il faut que ça se corrobore exactement. Et puis, au moment de partir, elle s'appelle Sarah, cette femme. Elle me dit, mais je me souviens, il y avait un ancien gendarme qui louait des camionnettes et il a dû le voir aussi. Mais c'est tout ce que j'ai. Un ancien gendarme qui avait loué une camionnette pour emmener des gamins au rugby. Bon, je rentre chez moi, j'habite à l'étranger, je reprends l'avion, j'arrive à la maison, je vais sur Google et puis j'affiche tous les clubs de rugby du Var. Hein, et c'est parti. Hein. J'ai appelé tous les clubs de rugby pour retrouver le gendarme. Mais bien sûr, c'est ça l'autre flic. Jusqu'à ce qu'une jeune fille me réponde, mais moi je connais votre... je sais, il est encore en vie parce qu'elle pensait qu'il était mort. Et donc je retrouve mon gendarme, et il me dit, bah oui, et donc je reprends l'avion dans l'autre sens, avec les mecs de Canal, et on met les deux ensemble, et puis il nous raconte l'histoire, donc c'est ce que vous verrez dans le film, c'est extraordinaire. Et là, rebondissement, en les mettant ensemble, ils nous disent, mais oui, mais je me souviens, je suis monté dans la navette, de l'agence qui ramène les clients au parking, nanana. Enfin, il y avait une navette qui fait le tour des campings et tout ça parce qu'on est au bord de la mer. Et donc, le gendarme explique qu'il est monté dans la navette et que dans la navette, à côté du chauffeur, il y avait un mec qui ressemblait à Ligonnès. Donc, avance. Donc, on est déjà à deux témoins. Donc, le chauffeur, troisième. Sauf qu'on ne l'a pas sous la main, le chauffeur. Donc, rebelote.
Faut retrouver le chauffeur.
Oui, on va de liane en liane un peu, quoi.
Et donc, les mecs de Canal, ils sont dingues parce qu'ils sont avec nous sur le terrain et on retrouve le chauffeur. On n'a pas repris l'avion, on a gratté. Je me souviens même comment on l'a trouvé. J'étais en train de bouffer dans un buffalo ou je ne sais quoi, et mon téléphone a sonné parce que j'avais lancé plusieurs cannes à pêche. Et c'est le chauffeur qui m'a appelé. Il m'a dit, vous voulez me voir? Oui, on vous cherche partout. Il dit, venez, je suis au boulot, mais vous pouvez me voir.
Le mec me dit,
voilà, moi effectivement, j'ai donc on lui montre les photos et tout. Et donc ça fait trois. Hein. Il me dit, voilà, moi j'ai rencontré un mec qui ressemble effectivement à la photo et je l'ai déposé là, dans un camping à 1 ou 2 kilomètres du Formule 1.
Et ça, ce serait quel jour là?
On est dans la période.
On perd sa trace le 15 avril.
On va dire que entre le 15 et le 21 avril, je dis dans mon livre que Xavier Dupont-Ligonnès est toujours vivant. Sur la base de ces quatre témoignages. Après le 21 avril, moi j'ai plus de traces. Après, on peut passer sur le témoignage que vous avez vu à la télé il y a deux jours, où finalement, il y a quand même un nouveau témoignage qui me semble, moi, particulièrement intéressant.
Puisque... Là, je rappelle pour tous les auditeurs qu'il y a eu un appel à témoins spécial sur M6, spécial l'affaire du pont de Ligonnès. Dans quelques instants, je vais vous passer le curé, parce que ce n'est pas cette histoire-là que vous voulez me raconter, mais le curé, je vais vous faire entendre ce qu'il a pu dire.
Moi, je vois bien qu'il y a... Bon, je regarde les réseaux sociaux comme tout le monde, je vois bien qu'il y a une rigolade générale sur l'histoire du curé. Mais moi, je trouve que je suis présent en tant qu'invité pour parler de mon livre. Mais finalement, peut-être qu'il y a une histoire de curé, mais il y a surtout un témoignage qui m'intéresse, moi, puisqu'il rentre dans ma chrono. C'est-à-dire, le mec avec la moto, c'est Oumi, et moi, mon camping, c'est Oumi. Donc, peut-être que le mec avec la moto, c'est le même que le mien. Donc, moi, là, j'ai eu le témoignage il y a deux jours, il faut que je le travaille. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver où est-ce que la moto a été achetée, il va falloir retrouver. Mais ça, c'est mon travail. Mais donc, moi, le témoignage du motard m'intéresse beaucoup, évidemment.
Oui, mais qu'est-ce que ça dirait de plus? Qu'est-ce que ça dirait qu'il est encore en vie?
Justement,
si c'est après, 3 jours après, même si c'est le 18 ou le 19.
Non, mais j'aimerais bien. On a 15 ans de retard aujourd'hui.
Oui.
Donc, oui, on est là,
dans la thèse, entre guillemets, du suicide, il n'y a pas l'idée qu'on étire. Donc, à partir du moment où, à chaque fois qu'on gagne des jours où il a été vu, la thèse du suicide Madeleine.
Ne tient plus, c'est ça.
Parce que, au bout d'un moment, si t'as fait, entre guillemets, t'as un parcours initiatique, t'as pas les... et que tu continues à te faire chier, à vouloir chercher un camping-car, à vouloir bouger ailleurs, tu... tout d'un coup, tu te mets à se suicider quand, le mec? C'est quand est-ce qu'il avait prévu de se suicider? À Dallas?
Moi, je vais vous dire, l'objectif de départ, quand j'écris mon livre, c'est pas d'aller mettre les menottes avec Xavier Dupont-Ligonnès. Moi, je me dis, je vais refaire humblement.
Un peu quand même. Non, un peu quand même.
Non, vraiment, un peu quand même.
En mode la liste des Oyos, avec pas du tout le...
je suis pas un rêveur à ce point-là. Moi, je me dis, voilà, moi, je vais refaire mon enquête. Si je trouve des trucs, tant mieux. Et je file le bébé à mes anciens collègues et puis ils vont reprendre le truc.
Ouais. L'idée, c'est de laisser la flamme vive.
Voilà. Parce que finalement, je sais hein, que personne ne le cherche.
Ouais.
Donc moi, je me dis, voilà.
Ça arrangerait un peu tout le monde de ne pas chercher.
Parce qu'ils le cherchent dans les cimetières. Moi je sais qu'il cherche Xavier.
Il y a même une fiction où à la fin,
oui,
il va
dans la tête du suspect.
Il va carrément
dans un homme ordinaire.
Voilà, il va carrément.
Non, ça c'est un autre. Celui dont vous parlez, c'est ouais. Sur M6. Ça s'appelle Dans la tête du suspect. À la fin, il se met dans un caveau et il
se tire dessus. Voilà, ouais. Là, c'est comme ça, c'est réglé.
Et ça, ce genre de thèse, non, pour vous.
Ben on aurait vérifié du coup.
Faut même pas me dire ça. Je fais un scandale sur le plateau.
Alors, juste, je voudrais vous repasser ce moment.
Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est pas vous?
Attends, mais il y a une petite ressemblance. Qu'est-ce que ça...
Il y a un truc au niveau des
mardi
minutes.
Soir, dans l'émission Appel
plus
à témoins,
que Guy Joao,
qui promettait de nouvelles révélations sur cette affaire. On n'a pas été déçus au niveau des révélations. Il y a un homme qui appelle les équipes d'appel à témoins et il se fait passer pour un prêtre. Et il se passe ça avec Julien Courbet.
Dans quelle ville, mon père, auriez-vous vu Xavier Dupont de Ligonnès?
Je vivais dans l'Aude.
Très bien. Dans quelles circonstances l'auriez-vous vu?
Alors, c'est une circonstance où il est venu pour venir passer quelques jours chez nous, où il y a eu cette confession.
Mon père, est-ce que vous êtes sûr à 100% qu'il s'agit de lui?
Oui, bien sûr, avec la confession en dit beaucoup. Voilà, exactement.
Mais on parle de 2022.
Oui, 2022,
ah.
Exactement.
Non, mais c'est complètement fou, là, ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, en 2022, Xavier Dupont de Ligonnès s'est confié à vous.
Exactement, exactement.
Vous étiez comment sur le plateau?
Alors, déjà, moi, je peux vous dire, parce que je suis sur le plateau.
Je suis assis, je
vois les tables. Et moi, déjà, ça fait plusieurs minutes que je vois l'agitation autour des tables. Je sais qu'il se passe un truc, je sais pas quoi. Mais je vois qu'il va y avoir un truc. Donc, effectivement, au bout d'un moment, Julien Courbet prend l'appel en direct. Moi, j'avoue que, bon, comme tout le monde, le truc du curry colle pas à mon scénario. Mais après tout, je peux me tromper. Donc, moi, presque la première seconde où il dit la confession, tout ça, moi, j'ai envie d'y croire. Et puis, je vais vous dire la vérité, j'avais mon téléphone dans la poche qui vibrait et il y avait mon fils qui m'envoie. SMS, il dit papa, fais gaffe, on dirait Ligonnès au téléphone. Je vous assure que c'est vrai.
Il n'a pas vraiment la même voix.
Non, mais il y a eu une espèce de suspicion. Et puis moi, je me suis dit, mais merde, attention. Finalement, c'est mon fils qui me dit papa, fais attention au truc. Et donc, je me suis dit, bon, moi, parce qu'il était question d'une photo, vous avez coupé un peu. Il était question qu'il envoie une photo. Donc moi, je me suis dit, on va laisser le truc parce que bon.
Oui, alors,
hein, il en verra. Moi, j'attends la photo et on verra.
C'était même genre un selfie, c'est ça? C'est pas un selfie?
Non, ça, j'ai pas. Moi, dans le plateau, on a.
C'est vrai.
Moi, j'ai pas tout entendu.
Dans quel cadre un curé fait une photo?
Je sais pas du tout. Moi, j'ai juste entendu photo et je me suis dit, tu t'emballes pas. Ouais. Tant que t'as pas. Parce que les photos, j'en ai vu des centaines. Donc, moi, tant que je l'ai pas reconnu sur photo, je laisse le truc couler. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis après, en coulisses, l'enquête se termine. Enfin, l'émission
se termine. Et rapidement, les équipes d'M6 se rendent compte que c'est un témoignage foireux, quoi.
C'est pas rapidement, c'est pas évident. C'est, on sent que ça colle pas. Et jusqu'à un moment donné, où moi, je suis avec eux parce que je suis resté. J'ai dit à mon éditeur qui est là, et je lui dis, oh, on s'en va pas là. Si c'est Ligonnès, c'est jamais. Hein. Je dis, on lui demande sa date de naissance, on va voir. C'est des trucs factuels.
Ouais.
Parce que le mec, il était toujours dans le vague, machin, ouais. Parce qu'ils l'ont rappelé. Puis déjà, pour moi, la voix qu'on avait derrière n'était plus la même qui était sur le plateau. J'ai dit, putain, ça colle pas. Et là, vous êtes né quand? Donc là, ouh.
Aïe.
Vos enfants, ils s'appellent comment? Laissez mes enfants tranquilles, laissez-moi en paix. Bon, voilà. Là, il répond à une question factuelle. Donc là, moi, je dis, là, c'est mort. C'est pas possible.
Ok, il faut dire aussi que cet homme aurait déclaré que en fait c'était lui Xavier Dupont de Ligonnès. Le problème en fait dans cette enquête,
ouais.
C'est justement pour ça, c'est qu'en fait des affabulateurs, des fous, vous allez en croiser partout. Des gens qui ont vu que ça avait
du
monde de Ligonnès.
Mais précisément sur ce cas-là, moi je me prononce pas encore parce qu'on n'a pas été au bout du truc. Si j'étais encore policier, moi j'aurais immédiatement identifié le numéro du mec. Je veux savoir qui c'est qui est derrière. Parce qu'il y a quand même un loup.
Ce travail va être fait, non ?
J'espère. Parce qu'il y a quand même un loup. Je veux dire, c'est quand même bizarre que le mec il appelle juste avant la fin de l'émission. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve franchement.
Si, moi, des mecs qui veulent faire des canulars, je pense qu'il y en a beaucoup.
Hein. Alors, si c'est un canular, faut savoir qui a fait le canular. Alors, si ça se trouve, le canular, il vient d'une télé concurrente. Après tout, pourquoi pas ?
Pourquoi vous regardez Julien, il a rien fait.
Je regarde vous. C'est juste avant de prendre l'antenne.
Je sais pas, j'ai pas le sentiment que c'est un canular.
Moi, je vous avoue que quand j'écoute la voix, c'est débile, hein. Mais je trouve pas qu'il y a le phrasé d'un curé. Je trouve pas qu'il y a la retenue, la manière de dire les choses. Ça correspond pas. Ah, quand on en a eu des gens. Vous êtes d'accord avec l'expérience, ça ressemble pas. Dans l'oreille, il y a un truc qui colle pas. Même dans le. Ah, bah, vous savez, aujourd'hui, on dit tout. Même quand on lui dit, vous êtes sûr à 100%, la confession. C'est-à-dire que la manière dont il aborde le truc, on a l'impression que quelqu'un qui l'aurait vraiment vécu, il dirait, écoutez, franchement, je vous jure que moi, quand je l'ai vu, ça m'a. Il aurait été beaucoup plus dans quelque chose d'humain.
Quand il parle, on sent le truc quand même qui est préparé.
Oui,
il est pas en impro là. Le mec, ça se voit qu'il a préparé son coup.
Et moi, c'est ça qui me. Ouais.
Avant de vous libérer, Gilles Gallo, quand même cette question. Est-ce que vous pensez qu'on va savoir un jour? Parce que nous, après là, quand vous allez partir, nous, on va se poser la question avec les auditeurs au 32 sur Canal Plus.
Si vous continuez, je reste parce que je peux pas que vous le trouviez sans moi.
Non, mais est-ce qu'on va le retrouver un jour? Votre intime conviction.
Moi, j'espère.
Avant sa mort, déjà.
Mais souvent, il y a plein de gens qui disent ça. J'espère qu'on va le trouver avant qu'il meure. J'en sais rien. Peut-être que lui va mourir avant nous tous. C'est parce que c'est dans l'ordre des choses, puisqu'il est malheureusement, il vieillit. Moi, ce que je dis, c'est que il faut peut-être arrêter de le chercher dans les cimetières, quoi, parce qu'on le trouvera pas. Enfin, au bout d'un moment, il va y être dans un cimetière, mais. En tout cas,
ah ben vous l'avez dit.
Là aujourd'hui il est dans.
Il s'est suicidé de vieillesse. Il faut arrêter. Très rare.
Il faut arrêter d'aller fouiller les tombes.
Donc il faut attendre impatiemment le deuxième livre, c'est ça, de Gilles Gallou. Mais si déjà vous voulez être déjà bien renseigné, Xavier Dupont de Ligonnès, un flic au cœur de l'affaire, aux éditions Max Milo. Merci beaucoup.
Merci
d'avoir été.
Bonjour, bonsoir. Merci.
D'avoir
bonjour,
été bonsoir. Avec
merci.
Bonsoir, bonjour. Vous écouterez la Libre Antenne maintenant?
Je vous en podcast, hein, moi je dors à l'heure où vous travaillez.
Mais
les
nous
gars.
Aussi on l'écoute quand on podcast.
C'est le podcast qui marche.
Alors j'ai compris que c'était l'un des meilleurs podcasts de France, donc je vous suivrai avec
grand intérêt. Le meilleur, mais c'est l'un des plus écoutés.
Bravo les gars.
Merci d'avoir été avec nous, Gilles Gallou. Et on va dans quelques instants faire entrer nos invités, évidemment, nos auditeurs, pour leur demander leurs sentiments sur cette affaire. Et vous aussi, on vous attend au 32-16. On se sépare juste quelques secondes pour un chant de supporters nantais. Ah bah tiens, c'est bizarre. Nantais, parce qu'ils aiment bien chanter des chants sympas.
RMC jusqu'à 1h30.
Les nuits du Casar enchaîné.
Nous la terre,